Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Les jeux vidéo racontent des histoires qui finissent mal, en général, pour l'un des joueurs en tout cas, à juger plutôt.
Kung Lao wins. Flawless victory. Fatality.
Bonjour Alexis Blanchet.
Bonjour.
Si nous étions dans un jeu vidéo, dans l'univers de Mortal Kombat, vous seriez Kung Lao et vous auriez commencé cette émission en m'infligeant une fatalité. Vous savez ce que c'est ?
Ah ben, une fatalité, c'est un mouvement final qui vient clore une joute dans Mortal Kombat, et souvent très visuel, très gore.
Vous le dites très élégamment, alors qu'à l'image, c'est insoutenable à regarder.
Je précise, très gore, donc beaucoup d'éclats de sang, ça fait scandale au début des années 90, Mortal Kombat. Et c'est évidemment un jeu qui recroise toute une série de thématiques que les joueurs du début des années 90 apprécient, et entre autres la question d'une virilité qui s'affirme dans l'action et dans la violence.
Il était une fois, c'est ainsi que toutes les histoires commencent, et celle qui va nous accompagner aujourd'hui n'y fait pas exception, en route sur les chemins de la philosophie. Jules César, l'empereur, vient d'être assassiné. Toutes les preuves semblent accuser le père du valeureux soldat Agrippa. Mais comme bien des choses à Rome, les apparences sont souvent trompeuses. Pour sauver son père, Agrippa doit vaincre des gladiateurs dans des combats d'arènes sanglants. Pendant ce temps, son ami Octavien tentera de découvrir qui se cache vraiment derrière la mort de Jules César en faisant preuve de ruse et de discrétion. Deux héros pour une aventure épique dans les ténèbres de Rome. Alexis Blanchet, vous êtes maître de conférence au département cinéma et audiovisuel de la Sorbonne Nouvelle, spécialiste des jeux vidéo notamment au cinéma. Et d'ailleurs, l'extrait que je viens de lire montre à lui seul l'intrication entre cinéma et jeux vidéo. Est-ce que ce qu'on vient d'entendre, ce que je viens de lire, c'était le synopsis d'une suite de Gladiator de Ridley Scott ou bien l'argument promotionnel imprimé au dos de la jaquette d'un jeu vidéo ?
C'est un péritexte de jeu vidéo, c'est-à-dire c'est un texte qui se déploie autour de l'objet, qui se déploie sur la jaquette au milieu des années 2000, sur ce jeu qui s'appelle Shadow of Rome. Et c'est un texte, un péritexte qui va permettre à un consommateur de jeux vidéo, peut-être, de faire son choix pour dépenser une soixantaine d'euros dans un jeu vidéo. C'est un texte en effet qui reprend des caractéristiques de récit ou d'amorce de récit et qui lance probablement le futur joueur, celui en tout cas qui va dépenser une petite somme d'argent pour son jeu, dans un jeu qui aura des caractéristiques de récit et qui essaiera de déployer au cours de plusieurs heures de manipulation un récit avec une amorce, un début, un développement et une fin. Les péritextes, c'est toujours assez intéressant à lire et c'est souvent un
angle... Quand vous dites péritexte ?
Péritexte, ce qui se déploie autour du texte. Ici, le texte, pour moi, c'est le texte vidéoludique, c'est-à-dire vraiment la matière du jeu auquel le joueur va être confronté dans sa partie. Et les péritextes accompagnent, en fait, les jeux vidéo depuis très, très longtemps. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les habillages des bornes d'arcade, par exemple. Et ces habillages de bornes d'arcade, ils disent beaucoup de choses avant même qu'on rentre en contact avec le jeu. Dans les années 70, c'est les bornes d'arcade. Auparavant, dans l'informatique ludique universitaire, dont vous a parlé un peu ici Jean Z ou Mathieu Triclot, il y a souvent de la documentation qui accompagne les jeux parce que il y a un titre souvent associé à une application qui est sur un serveur dans les années 60 ou dans les années 70. Et puis quelques éléments quand même de péritexte qui vont expliquer aux joueurs un peu dans quoi ils s'embarquent. Et puis aujourd'hui, on est à la fois sur des jeux qui sont encore des objets, qui sont encore vendus dans des grandes surfaces ou dans des magasins spécialisés, et puis aussi des jeux dématérialisés qui, d'une certaine façon, perdent un petit peu en péritexte, même si toute une série d'interfaces visuelles, graphiques, permettent de rentrer dans le jeu avant de jouer.
Ce que vous dites, c'est que l'existence de ce fameux péritexte est une forme d'invitation pour le joueur à pénétrer dans un univers qui, lui, ne passe pas forcément par le texte. C'est-à-dire comme si le jeu vidéo ne se suffisait pas à lui-même, qu'il fallait rejouer la forme de récit traditionnel du slogan de pub ou de la description d'un film, d'un synopsis, pour inviter les joueurs à entrer dans l'univers du jeu.
C'est une forme d'invitation. Je pense que le jeu se suffit à lui-même et pour beaucoup des acheteurs de jeux vidéo, probablement que ce qui est écrit sur la jaquette de jeu ne compte pas du tout. C'est probablement des discours qui ont été produits sur le jeu, par exemple des discours critiques, qui vont l'amener, ou des échanges avec d'autres joueurs qui vont lui dire « mais tiens, tu devrais jouer à ce jeu-là ». Donc c'est une possibilité qui est proposée, mais c'est en tout cas quelque chose qui dit beaucoup de la manière d'amener à des jeux vidéo qui, aujourd'hui, pour une grande partie de la production, a adopté ce que Paul Ricoeur appelle cette espèce, une espèce narrative qui est la manière de déployer des récits au sein des jeux vidéo. Dans les années 70, une salle d'arcade, donc une salle avec des bornes de jeu, c'est un lieu très concurrentiel. À côté d'un Space Invaders, il y a un Galaxian, il y a un Galaga, il y a un Pac-Man. Et d'une certaine façon, chaque machine va essayer d'attirer à lui le joueur. Et pour l'attirer, évidemment, il y a des péritextes visuels qui vont se déployer sur les flancs de la machine, sur le front de la machine, qui sont des images très souvent très colorées et qui invitent à un imaginaire. La question du récit, d'une certaine façon, elle s'amorce dans ce premier contact qu'on a avec les machines de jeu. Elle s'amorce dans l'imaginaire qui va être développé, qui est souvent un imaginaire de genre. En fait, la question du récit, je trouverais intéressant de l'aborder sur cette question-là. Avant de se lancer dans le jeu, le péritexte d'une borne va, par exemple, nous montrer des cow-boys, va nous montrer des pistolets, va nous montrer des balles qui traversent comme ça les flancs de la machine. Là, je pense très précisément à une borne de 1975 qui s'appelle Gunfight, qui est un jeu japonais commercialisé aux États-Unis sous le titre Gunfight, qui a été commercialisé l'année précédente au Japon sous le titre Western Gun. Et donc le joueur, d'une certaine façon, en s'approchant de cette borne-là, il rentre déjà dans l'univers de jeu. Et il se trouve qu'un jeu de 1975, c'est un jeu qui, graphiquement, est très peu figuratif, est assez pauvre graphiquement. Il est monocolore, il a quelques graphismes qui essayent de représenter tant bien que mal des éléments. Et ici, le péritexte, qui est cette borne de jeu, a fait tout un travail de mise en condition pour arriver à une interprétation optimum d'une situation de jeu, qui n'est pas encore tout à fait un récit, qui est vraiment, si c'est un récit, il est très embryonnaire et très lapidaire, mais qui va permettre aux joueurs tout de suite de comprendre que Gunfight, c'est un jeu de duel de cow-boys et de cow-boys qui vont s'affronter. C'est un jeu à deux joueurs, où deux joueurs s'affrontent à travers des avatars de cow-boys qui se lancent, qui se tirent au pistolet l'un contre l'autre.
Vous voulez dire que plus l'histoire des jeux vidéo avance, plus le récit se complexifie et devient subtil?
Oui, il y a des modalités qui vont être proposées, qui vont évoluer évidemment avec un secteur qui est un secteur technique, très lié aux questions techniques. Et cette technique va permettre évidemment une sophistication de l'environnement des jeux. Il suffit de comparer un écran de Pong, ce jeu de tennis de 1972, à une simulation de tennis actuelle. Et évidemment, il y a un fossé incroyable.
Mais il y a plus de réalisme, mais le récit est-il vraiment plus compliqué? Il s'agit de jouer au tennis dans les deux cas. Enfin,
il s'agit
de renvoyer une balle, disons.
Je renvoie simplement à l'idée vraiment d'une sophistication qui s'est constituée au cours des années et qui profite des apports de la technique. Sur la question du récit, elle va évoluer de différentes manières. C'est vrai que si on renvoie à la question du genre, le genre cinématographique et plus largement, je vais dire, les genres populaires, par exemple les genres de la littérature populaire, ça peut être la science-fiction, ça peut être l'heroic fantasy, vont être largement des moyens pour les premiers jeux de faire saisir leur univers et de s'appuyer sur les codes, sur les archétypes, sur toute une série d'ingrédients qui vont permettre de produire récit et d'avoir un joueur qui va comprendre des éléments et peut-être reconstruire à partir de ces éléments embryonnaires un récit par rapport à son expérience de jeu vidéo. Pour vraiment rentrer dans la catégorie du récit, il faut attendre les années 70 dans le domaine de l'informatique universitaire. À un moment d'ailleurs où l'économie marchande du jeu vidéo commence à se développer, c'est la fameuse borne d'arcade et ce marché qui est amorcé par le succès de Pong en 72. On va avoir des jeux d'aventure, dont un des titres les plus connus est un jeu de 1976 qui s'appelle Colossal Cave Adventure et qui est un jeu qui s'inspire à la fois des modalités du jeu de rôle qui se développe un tout petit peu avant sur les campus universitaires américains et qui invite le joueur à explorer des grottes avec toute une série d'événements qui se passent dans l'exploration de ces grottes. Les programmateurs de ce jeu vont utiliser d'une part la reconnaissance du langage naturel, c'est-à-dire que le joueur va pouvoir rentrer dans l'ordinateur des commandes, qui vont être des commandes de déplacement ou des commandes d'action. Ça, ils utilisent évidemment la langue anglaise, donc ça peut donner « go west »,« aller à l'ouest »,« pick sword »,« prendre une épée ». et l'ordinateur va interpréter ces commandes pour le faire avancer dans un récit prédéterminé qui a été mis en place par les développeurs, avec cette capacité qui est offerte à ces développeurs dans les années 70 dans le domaine de l'informatique ludique, de pouvoir évidemment donner beaucoup plus de substance, beaucoup plus d'épaisseur à ces univers imaginaires. Là où les graphismes sont extrêmement limités, sont très peu figuratifs, la description littéraire des mondes du jeu, qui n'est simplement qu'une reprise de la littérature et d'une certaine littérature de genre, permet de donner d'une part cette épaisseur, on va pouvoir décrire des paysages, on va pouvoir décrire des environnements, on va pouvoir décrire des actions assez spécifiques d'une part, et puis on va pouvoir aussi, ça c'est une des caractéristiques intéressantes, développer un ton. Et ce ton, c'est souvent un ton humoristique. C'est un humour qui très souvent s'amuse à jouer des paradoxes entre le joueur et la machine. Je prends un exemple qui est donné par un collègue québécois, Jonathan Lessard, dans une partie d'Adventure, Colossal Cave Adventure. Il fait face à un dragon. Alors, il rentre la commande en langage naturel, « Fight, dragon !» Et l'ordinateur de lui répondre « Are you sure ?» est-ce que vous êtes sûr? À main nue? Point d'interrogation. Et là, le joueur a la possibilité de dire oui ou non. C'est-à-dire de prendre en considération la remarque de la machine qui lui dit, mais combattre un dragon à main nue, ça peut être risqué. Et là, le joueur dit oui. Et la machine lui répond, bravo, vous avez vaincu ce dragon. C'est quand même étonnant, non? Et voilà. Donc on a.
Ça, c'est même plus du récit, c'est une interaction.
C'est une interaction qui développe un élément de récit. On fait face à un dragon et puis à l'issue du dialogue, évidemment, on a battu ce dragon. Donc on a avancé d'une étape dans le récit. Mais évidemment, ce passage par l'écriture qui permet à la fois de structurer un récit interactif, de prendre en compte les commandes en langage naturel du joueur, permet aussi de développer un ton.
Nous employons couramment le mot français « récit » sans nous soucier de son ambiguïté, parfois sans l'apercevoir, et certaines difficultés de la narratologie tiennent peut-être à cette confusion. Il me semble que si l'on veut commencer à y voir plus clair en ce domaine, il faut discerner nettement sous ce terme de « récit » trois notions distinctes. Dans un premier sens, « récit » désigne l'énoncé narratif, le discours, oral ou écrit, qui assume la relation d'un événement ou d'une série d'événements. Dans un second temps, récit désigne la succession d'événements, réels ou fictifs, qui font l'objet de ce discours et leurs diverses relations d'enchaînement, d'opposition, de répétition. Dans un troisième temps, récit désigne encore un événement, mais non plus toutefois celui que l'on raconte, mais celui qui consiste en ce que quelqu'un raconte quelque chose, l'acte de narrer pris en lui-même. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et la musique de Donkey Kong, vous l'avez reconnu Alexis Blanche.
Tout à fait, oui.
C'est vraiment une musique qui reste dans la tête toute la journée, je sais de quoi je parle. Et sur cette musique, vous avez entendu, puisque je les ai lus, les mots de Gérard Genette, qui dans figure 3 parle du discours du récit et définit trois types différents, trois fonctions différentes du récit. La question qui se pose, et je trouve qu'elle se pose avec humour, mais aussi pertinence quand on l'écoute avec ce thème, pour le coup très très simpliste, c'est une musique digitale, c'est une musique très, presque minimaliste, robotique, c'est y a-t-il une spécificité du récit à l'œuvre dans le jeu vidéo? Ou bien est-ce qu'il reprend les mêmes modes de narration, les mêmes modes de récit que dans la littérature, que dans le cinéma ou dans d'autres domaines?
C'est-à-dire que on est toujours confronté à cette question de tout ce qu'on met derrière cette étiquette qu'est le terme jeu vidéo d'une certaine façon. Il y a une part des jeux vidéo qui vont avoir, et on les voit très largement dans ce qu'on pourrait appeler la production mainstream, des envies de récit et des capacités à produire récit. On peut tout à fait écrire le récit d'un jeu vidéo, un peu à la suite, par exemple, du péritexte qu'on lisait en début d'émission, et en disant, qu'est-ce qui se passe après comme événement, et qu'est-ce qui nous amène à une finalité qui est souvent considérée par les joueurs, ou par une partie des joueurs, comme la fin du jeu. Et on a bien, à ce moment-là, une des catégories du récit, qui est qu'un récit a un début et un récit a une fin. Ensuite, à côté de ces une fin même momentanée.
Oui, c'est ça. Mais dans les jeux vidéo, c'est pas toujours très clair. La fin est parfois jamais atteinte.
En tout cas, du point de vue de la réception du joueur, certains joueurs vous diront j'ai terminé, une sorte de jeu monument comme GTA V. J'ai terminé GTA V. qui voudra grosso modo dire j'ai réussi à déclencher un générique de fin du jeu qui pour les développeurs, est reçu de cette même manière pour les joueurs et est aussi un marqueur de la fin de quelque chose qui a été traversé dans le jeu et qui peut être considéré comme une forme d'aboutissement du récit. Peut-être incomplet, peut-être lapidaire, mais en tout cas, ce sera le sentiment et qu'on voit bien chez les joueurs qui disent avoir terminé un jeu. Ça, c'est la première chose et ça concerne certains jeux vidéo, mais dans une production aujourd'hui très vaste. C'est-à-dire que il y a certains jeux vidéo qui n'ont pas forcément le besoin de s'encombrer de questions de récit. Si je prends à des jeux dérivés des jeux de puzzle, mais qui utilisent quand même largement la machine.
Tetris, par exemple.
Voilà, on en revient d'une certaine façon et c'est presque une blague
toujours à Tetris.
Dans le champ des Game Studies. C'est-à-dire qu'on en revient au Tetris Studies.
C'est le Godwin Point des Game Studies.
Qui devient une sorte d'exemple. Exemple limite pour dire oui mais bon vos histoires de récits, regardez jouer à Tetris et vous verrez que, mais évidemment c'est Tetris qui vient en tête en premier lieu, mais on pourrait en trouver bien d'autres. D'autres d'une certaine façon pourraient tout à fait faire l'économie des éléments de récits qu'ils ont, c'est-à-dire qu'on peut jouer tout à fait à Candy Crush sans avoir toute cette histoire du petit train qui traverse différentes contrées et qui permet aux personnages de progresser, de découvrir le monde et d'avoir de plus en plus de bonbons. Donc on voit que cette question, c'est-à-dire parler de jeux vidéo d'une manière un petit peu globale, évidemment apporte de la difficulté parce que ça va valoir pour certains jeux et puis pour d'autres ça va pas du tout être pertinent. Sur la question de ces premières tentatives de faire récit dans les années 70, on voit que ça a un effet. À partir du moment où il y a une machine qui s'appelle le micro-ordinateur, qui va rentrer dans les intérieurs domestiques et qui va appeler de nouvelles expériences de jeu, hein, de nouvelles attentes vis-à-vis de l'expérience de jeu vidéo. Quand on est chez soi, on n'est plus du tout dans l'urgence de la partie de jeu d'arcade, dont vous avez bien expliqué il y a deux émissions de ça, que on perdait de toute façon au bout d'un moment parce qu'il y a un modèle
une pièce
d'exploitation
jouer,
économique qui doit rapporter de l'argent, qui doit, en français, les exploitants de machine de jeu, c'est-à-dire faire une bonne caisse. Voilà. Donc faire une bonne caisse, c'est aussi limiter un peu la partie. On sait que les exploitants pouvaient même limiter, par exemple, en temps, hein, dans les années 70, proposer des parties d'une minute 30, 3 minutes, 4 minutes, etc. Avec le jeu vidéo domestique, on est chez soi, on a acheté une machine et on a des logiciels qui sont des jeux, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément attendus au moment où la machine arrive. Hein. C'est comme toujours avec le jeu vidéo, c'est un objet qui vient prendre place parfois là où on ne l'a pas entendu, qui vient détourner les objets.
Pensez à quoi, par exemple,
de leur usage premier. Les premiers jeux vidéo sont des détournements de machines qui sont là pour faire du calcul.
Hein, Pong et Tennis for Two, c'est un oscillo.
Je pense plutôt à Tennis for Two ou à Space War qui sont faits sur des machines qui ne sont pas du tout faites pour jouer et qui sont faites pour faire du calcul. Là, le jeu vidéo revient sur ces machines domestiques avec des nouvelles attentes qui vont être celles non plus d'être dans une succession de parties jusqu'au moment où la rapidité en général nous permet plus de continuer à jouer, le jeu est trop rapide pour nous, mais là on va rentrer dans des attentes qui sont celles de pouvoir poursuivre et jouer dans la continuité sur une partie qui va se déployer sur plusieurs temps de jeu qui vont être parfois séparés de plusieurs semaines entre l'entrée dans le jeu et la sortie dans le jeu, parfois avec des longues interruptions. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que là, tous ces jeux d'aventure pensés dans les campus américains vont trouver en fait un moyen de rentrer sur le marché, c'est-à-dire que Zork, par exemple, un des jeux d'aventure universitaire qui date de 1979, connaît une exploitation commerciale au début des années 80. Et on va voir à ce moment-là de nouvelles formes de jeux qui vont vraiment prendre dans leur cœur cette idée de proposer et de produire récits. Ça va être des jeux d'aventure textuelle dans un premier temps, puis des jeux d'aventure textuelle et graphique dans un second temps. Et dans un troisième temps, ça devient ce qu'on appelle le point and click. Le point and click, c'est d'utiliser à la fois les capacités de la machine dans ce qu'elle peut produire en matière textuelle, littéraire, mais également d'interactivité avec l'usage d'une interface qui est la souris.
Et on arrive en 2010 avec la naissance de Red Dead Redemption. Quel qu'est-ce qu'il faut que l'auditeur imagine, Alexis Blanchet, en écoutant là cet univers? On voit qu'il y a un cheval, on imagine plus ou moins un univers de cow-boy, mais où est le joueur face à l'écran là?
Alors l'auditeur là, il est invité à imaginer le plus possible d'une certaine façon, c'est la magie de la radio. Le joueur, lui, quand il entend ça, bah, probablement qu'il est sur un cheval en train de galoper dans la Sierra et qu'il est soit en train de passer d'un lieu à un autre pour faire avancer le récit de Red Dead Redemption, ce jeu de la fin des années 2000, soit peut-être il fait ce qu'on appelle une mission, c'est-à-dire une petite incartade narrative qui se passe à l'extérieur d'une colonne vertébrale qui est vraiment le récit que les développeurs du jeu...
C'est ça, il y a le récit principal, et dans ce récit, il y a ce qu'on appelle des modules narratifs, des petites missions que le joueur peut accomplir.
Voilà, dans cette forme de jeu, c'est un jeu Rockstar. Rockstar est un studio qui est britannique et qui a, depuis le début des années 2000, avec GTA dans un premier temps, mais avec d'autres jeux également... explorer en profondeur tous les genres populaires hollywoodiens, d'une certaine façon. Et donc, avec Red Dead Redemption, ils font une exploration, et je reprends cette expression, Erwan Cario, que je trouve assez juste, qui est journaliste à Libération, spécialiste de jeux vidéo là-bas. Rockstar est un studio qui digère les genres cinématographiques, pour en proposer une version vidéoludique. Donc, dans Red Dead Redemption, vous êtes un cow-boy qui devait vous venger d'un groupe de vilains auxquels vous avez appartenu, et vous allez être projeté comme ça dans un environnement qui va essayer de condenser sur un espace assez large toutes les manières de penser le western au cinéma. Donc ça peut être à la fois la Nouvelle-Angleterre, ça peut être à la fois la frontière, ça peut être à la fois le désert, ça peut être à la fois ces westerns qui se passent plutôt au nord du territoire américain, dans la neige, etc. Et donc tout ça va être condensé sur un territoire que le joueur va être amené à explorer pour faire progresser une sorte d'enquête, hein, d'une certaine façon. Donc avec trois niveaux. Un niveau qui est celui de cette colonne vertébrale, qui est une sorte de récit avec des événements, avec d'une certaine façon certains objectifs à atteindre pour que le récit se déploie jusqu'à sa fin. Toute une série de missions annexes, c'est le terme qui est utilisé, c'est-à-dire de petits engagements dans des micro-récits qui arrivent assez vite à leur fin, mais qui permettent en général aux joueurs d'obtenir des items supplémentaires qui vont lui servir pour la suite de l'aventure. Et puis il y a une dimension d'exploration, hein, c'est-à-dire simplement, pour beaucoup, le plaisir, par exemple, de chasser, le plaisir de galoper, le plaisir de se promener, d'aller découvrir des paysages, parfois même avec certaines fonctionnalités du jeu, de faire des safaris photos dans ces environnements vidéoludiques. Donc, Red Dead Redemption fait au western ce que GTA a fait au film de gangsters, ce que Bully, un autre jeu de Rockstar, a fait à tous ces films qui tournent autour des univers scolaires, par exemple.
Mais est-ce que ça veut dire qu'une des raisons qui expliquent le plaisir que nous pouvons trouver à jouer à ces jeux est de déambuler et d'être acteur dans des univers filmiques, dans des films qu'on adore regarder jusque-là. C'est-à-dire, si plus on est fan de western, plus on a de chance d'aimer le Red Dead Redemption.
Pas si sûr que ça. Vous savez qu'au moment de la sortie de Red Dead Redemption, quand on regardait les chartes de vente d'Amazon, les ventes de western ont explosé. Donc, probablement que le western est un genre actuellement moribond. Hein. Je veux dire, il n'y a plus beaucoup de westerns qui sont produits. En tout cas, on n'est pas aux effets de production qui étaient ceux des années 30, 40, 50, jusqu'au début des années 60. Il y a encore, évidemment, hein, quelques westerns qui sortent par an sur les écrans, mais on n'en a plus 4 ou 5 par mois comme dans les années 60. En revanche, le genre est tellement inscrit dans les imaginaires qu'on peut y faire appel, en sachant que même un joueur d'une vingtaine d'années va tout de suite repérer des codes qu'il a, peut-être par le visionnage de western, mais peut-être par la série télévisée, peut-être par le dessin animé aussi, réussi à récupérer et à pouvoir retrouver le plaisir de ces codes-là dans ces expériences.
Il y a une porosité entre l'univers du jeu vidéo et celui du cinéma, puisqu'il faut bien connaître les références cinématographiques des joueurs pour leur proposer un jeu qui est susceptible de leur parler. Et même inversement, il y a toute une histoire du cinéma qui s'empare des jeux vidéo pour les intégrer dans leur propre scénario. C'est passionnant de voir l'intrication de ces récits.
Alors, oui, il y a beaucoup beaucoup de questions dans ce que vous me dites. Non, c'est pas si sûr que ça, hein, que qu'il faille connaître les codes ou avoir une culture cinématographique folle pour apprécier ces jeux. Je vais dire que beaucoup de mes propres enfants, allez, on va prendre un cas particulier, c'est pas très sociologique, mais bon, ont découvert Star Wars par une version Lego Star Wars qui a eu un succès fou il y a quelques années. Et cet univers, ils l'ont connu avant même de découvrir les films. Pourquoi ? Parce que cet univers était un univers de jouets Lego dans un univers de jeux vidéo qui était peut-être plus accessible à eux, à l'âge qu'ils avaient, que les films en eux-mêmes qu'ils ont vus par la suite. Donc, on rentre dans les jeux vidéo parce qu'il y a évidemment quelque chose qui nous attire. On va avoir des niveaux de lecture qui vont être différents selon qu'on est très cinéphile, selon que parfois on arrive à voir dans certains jeux des références cinéphiliques extrêmement pointues. Et c'est un plaisir du joueur d'aller découvrir, je sais pas, dans un jeu comme Conker Bad Fur Days, des références au cinéma de Stanley Kubrick, à Orange Mécanique, au Soldat Ryan, ou à des films cultes des années 70. Donc, on est là aussi face à une variété des joueurs qui vont avoir des lectures extrêmement variés des jeux, qui vont avoir des manières extrêmement variées de jouer, dans ce rapport au cinéma qui est en général intéressant du côté des producteurs de ces jeux. Je parlais de la question du genre qui donnait une bonne manière de lire le jeu ou de rentrer dans le jeu dans les années 70. Avec les progrès graphiques, les progrès visuels, d'animation des jeux vidéo aujourd'hui, avec cette frontière du photoréalisme vers laquelle on semble s'approcher de plus en plus, évidemment, les genres cinématographiques vont donner de la matière. De la matière pour penser des situations de jeu, de la matière pour penser des personnages, de la matière pour penser peut-être certaines formes de retournement de situation scénaristique qu'on va pouvoir retrouver dans ces jeux vidéo-là également. Donc, ce qui est important du côté des producteurs, on sait que du côté de chez Rockstar, on a évidemment des gens qui sont très cinéphiles, qui ont un goût affirmé pour le cinéma et qui s'appuient sur cette culture-là pour produire du jeu vidéo. Mais le cinéma, le jeu vidéo peut être aussi une ouverture sur certains cinémas. On a vu des joueurs s'intéresser au western avec Red Dead ou des joueurs s'intéresser au film noir avec Alien Noir quelques années plus tard.
Et puis, il y a certains cas où les deux semblent s'intriquer de manière presque organique. C'est le cas du film Existence de Cronenberg qui met en scène un branchement vraiment organique, presque au sens propre du terme, hein, une espèce de cordon ombilical branché dans la moelle épinière. La personne, qui est donc un acteur dans le film, devient un joueur dans un jeu qui se crée de toutes pièces. Autour de lui, il n'y a plus de distinction entre... Ouais. Le jeu et la réalité, et en plus nous sommes spectateurs d'un film, donc la mise en abîme est triple, voire quadruple. On est à la fois complètement perdu, mais surtout fasciné, écoutez.
À mort, la démon allait craquer l'air.
Ce n'est pas drôle.
Pardon. N'empêche que... J'éprouve le besoin de tuer quelqu'un ici.
Qui ?
Je dois tuer notre serveur.
Oui, ça a peut-être un sens. Garçon ! Quand il s'approchera, tue-le, n'hésite pas.
Mais... À vrai dire, tout est tellement réaliste dans ce jeu que... Je ne crois pas que je pourrais...
Tu ne pourras pas t'en empêcher, tu pourrais même y prendre plaisir.
Le libre arbitre, de toute évidence, n'est pas un facteur très important dans ce monde.
Comme dans la vraie vie, juste assez pour que ça ait un intérêt.
Il est trop gentil. Je ne ferai pas ça.
Comment puis-je rendre votre repas plus agréable ?
J'ai trouvé ça dans ma soupe. Je suis extrêmement contrarié.
Voilà Alexis Blanchet, il suffit de décider que le jeu dans lequel nous vivons, bon lapsus, que le monde dans lequel nous vivons est un jeu, quelle différence au fond, pour finalement, à la seconde où on se dit qu'on tuerait bien quelqu'un, parce que c'est ce que fait le personnage hein, ici, Ted, interprété par Jude Law, qui est lié à sa petite amie Allegra avec qui il est en train de dîner, que finalement, voilà, il trouve quelque chose dans sa soupe, il se dit mais moi je tuerais bien quelqu'un, Ça tombe bien, le serveur est là, il a trouvé quelque chose qui lui déplaisait dans sa soupe. Il a quelques réticences, Allegra lui dit « Non mais tu sais, c'est comme dans la vraie vie, hein. Finalement le libre-arbitre, ça sert pas à grand-chose, enfin tu peux de toute façon le faire, il n'y a pas de conséquences. » Et du coup, il va tout simplement tuer le serveur. On est là à la fois en plein fantasme et ça soulève une réflexion passionnante sur la différence entre le monde réel et l'univers du jeu.
Oui, alors sauf que pour moi, il y a une sorte de malentendu autour d'Existence. Le problème d'Existence, d'une certaine façon, c'est que c'est un film de Cronenberg. Donc ça
c'est un problème en soi ?
Je dis pas ça par rapport à Cronenberg, hein, dont j'aime beaucoup le cinéma par ailleurs, même si ça aucun intérêt ici. Mais la question, c'est que c'est un film très mis en avant sur la question des mondes de jeux vidéo, parce qu'évidemment, il a la griffe d'un auteur de cinéma. Quand un cinéma de quartier ou d'une grande ville veut organiser une soirée de cinéma et jeux vidéo, bah souvent c'est Existence.
C'est un peu la tarte à la crème, voilà, de ceux qui veulent montrer qu'il y a un lien entre cinéma et jeux vidéo.
Dans les jeux vidéo cinéma, le bouquin que j'avais sorti chez Armand Collin il y a quelques années, je réglais un peu son compte d'une certaine façon, de mon point de vue, à Existence, en disant, en fait, il y a une séquence qui est le glissement du monde réel, entre guillemets, au monde du jeu. Et je parle vraiment de glissement. C'est-à-dire que les deux personnages, Ted et Allegra, se sont connectés à leur pod sur leur lit d'hôtel, si je me rappelle bien, et par un mouvement de caméra, Cronenberg va dévoiler un escalier qui est déjà un escalier qui appartient au monde du jeu, entre guillemets. Et donc on est dans un glissement, on est dans quelque chose qui est subi par les deux personnages. Ils n'ont pas décidé de jouer. On décide de jouer. Le jeu, c'est une activité libre. Huizinga nous l'a dit, Kaiwa nous le répète sur le jeu en lui-même. Et là, évidemment, les deux personnages sont complètement emportés dans ce glissement un peu évanescent par un mouvement d'appareil qui est très clair, qui est une sorte de travelling qui va aller sur le côté puis monter légèrement. Et donc, par ce simple effet de montage, pour moi, on n'est pas dans du jeu. Voilà deux personnages qui n'ont pas accepté de jouer, qui ont glissé
on leur a
comme
imposé.
Ça d'une certaine manière. Et je pense que la vraie catégorie avec laquelle d'un coup Existence prend une autre forme, c'est celle du rêve lucide. On sait qu'il y a des gens qui arrivent à maîtriser ce qu'ils font dans leurs rêves. Peut-être vous avez expérimenté ça, Adèle.
Non.
Moi, ça m'est arrivé. Je vais vous dire que voilà, dans des périodes où il faut être assez reposé en général, on prend conscience qu'on rêve quand on rêve. Et évidemment, moi, en tant que chercheur sur le jeu vidéo, quand ça m'est arrivé une fois, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé regarder la manière dont mon cerveau modélisait des vers. Voilà, puisque il se trouvait que mon rêve se passait dans une sorte de bar, dans une gare. Et donc, j'ai saisi ces vers et je les ai regardés. Et vraiment étant trop conscient que je rêvais, je me suis réveillé. Et je pense que la catégorie du rêve lucide est beaucoup plus intéressante quand on la confronte à Existence, et qui me semble être en fait une réflexion sur le rêve lucide. Donc, évidemment, je vois ensuite, le secteur du jeu vidéo est une thématique importante d'Existence. Il y a quand même un rapport un peu problématique au jeu aussi de la part de Cronenberg, qui est quelqu'un qui s'intéresse à ce qui se passe sur les écrans. Mais probablement que ça part de différentes mésententes.
Est-ce que vous qualifieriez les jeux vidéo de rêves lucides ? Pour le coup.
Alors moi, je le ferai pas, mais en tout cas, c'est une proposition qui a été faite parfois même de manière marketing. La PlayStation 2, si je dis pas de bêtises, avait utilisé cette fois-ci avec la technologie de la PlayStation 2, vous allez rentrer dans des rêves lucides. Un grand studio parisien qui a une audience internationale s'appelle Quantic Dream. Donc la question du rêve, elle a été approchée de ces immersions. Vous avez évoqué la question d'immersion dans l'émission d'hier, dans ces immersions qui sont celles du jeu. Sauf que le jeu, on décide de jouer, et que bien qu'on rentre dans le cercle magique que propose Huizinga quand on joue, et ben, il y a toute une série d'événements qui fait qu'on en sort tout aussi bien. Dans ces observations de joueurs, de rythme analyse que Mathieu Triclot, Manuel Boutet, Ovic Termination et Samuel Covavou et d'autres ont fait, en filmant des joueurs qui jouent, ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup de temps mort et de temps de non-jeu dans une partie de jeu vidéo. Donc, voilà, là, je reviens vraiment sur le cas d'Existence. Pour moi, c'est une sorte de mauvais objet. Et curieusement, du côté des objets de la culture populaire, Si je pense à des films comme Tron, si je pense à des films plus récents comme Code Source par exemple, qui est un film assez intéressant, il y a probablement des choses, voire aussi chez les Wachowski d'une certaine façon, des choses beaucoup plus fines sur la compréhension probablement de ce que c'est que jouer.
Mais la question est de savoir à partir de quand est-ce que nous basculons dans cet univers du jeu. C'est vrai que dans le cas du jeu vidéo, l'avantage, et la différence d'existence et d'autres scénarios possibles, c'est qu'il y a quand même, à un moment donné, le geste d'appuyer sur le bouton play qui fait qu'on commence le jeu et qui se terminera avec le geste d'appuyer sur le bouton off. Ce qui délimite en fait de manière très claire le moment où l'on joue et le moment où l'on ne joue pas, ce qui du coup distingue complètement le mode de récit, de narration à l'œuvre dans le jeu, de celui d'une forme de folie, de celui qui prendrait sa vie pour un jeu. C'est au contraire très distinct.
Ah oui, heureusement. Heureusement.
Bah, c'est pas si évident, figurez-vous.
Évidemment. Alors, quoique, est-ce que les joueurs continuent pas de jouer quand ils ne jouent pas? Vous avez joué à Tetris.
J'ai joué à Tetris.
Et est-ce que vous avez vu les pièces tomber dans votre...
Bien sûr, en fermant les yeux avant de s'endormir.
Voilà, tout le monde a vu les pièces tomber de ce qu'on appelait le Tetris Effect. Donc, comme toute pratique culturelle, les films qu'on voit nous accompagnent, les lectures qu'on fait nous accompagne et probablement qu'on les retravaille. Moi, tout le travail avec mes étudiants en cinéma, c'est de leur dire regardez pas les films avant que je vous fasse une évaluation sur table dessus. Là, j'ai un groupe d'étudiants, je leur fais découvrir Freaks de Todd Browning. Bah, surtout, Freaks, c'est un film à voir pour avoir le temps de le digérer et faire tout ce travail cognitif de réinterprétation, de réécoute. Ça fonctionne pour les films, pour les livres, comme pour les jeux, évidemment. Et le jeu est un jeu, donc on rentre dans la partie, on en sort. Toutes ces craintes, qui historiquement sont avérées dès la fin des années 70. Je veux dire, les premières polémiques sur cette histoire, il va y avoir de la confusion entre les catégories du réel et du virtuel que vous avez interrogé hier matin. Évidemment, elles accompagnent toutes ces paniques morales autour du jeu vidéo. La crainte, par exemple, sur un jeu de 1976 qui s'appelle Death Race, qui est un jeu de conduite où on pilote un petit véhicule sur un écran et on doit écraser des gremlins. C'est ce qui est précisé comme étant des gremlins sur le péritexte, la bande de jeu. Le Gremlin, c'est pas le Gremlins de Joe Dante, c'est simplement le mot d'argot, c'est-à-dire le troll d'une certaine façon. Et chaque Gremlin écrasé vous apporte un point. Et bien, ce jeu-là, qui est vraiment extrêmement peu figuratif, produit déjà les premières paniques morales et les premières polémiques. C'est une association qui s'occupe de sécurité routière qui dit mais faut absolument interdire ce jeu, qui va faire que les jeunes joueurs vont confondre la pédale d'accélération et le volant du jeu vidéo avec la vraie pédale et le vrai volant de la voiture, en peut-être reproduisant dans la vie réelle ces questions.
Voilà, ce qui témoigne souvent d'un mépris envers les joueurs, comme s'ils étaient incapables de faire la différence entre la vie réelle et la vie jouée. Cela dit, l'entreprise des jeux elle-même, ou tous les systèmes de production, jouent cette carte quand même du trouble entre le jeu et le réel. Pour reprendre quelques slogans dans Wargame, c'est « Is it a game or is it real ?» Est-ce que c'est un jeu ou est-ce que c'est vrai ?
Ah oui.
The Wizard, c'est « Certains jouent pour gagner, Jimmy joue pour changer sa vie », postulant par là qu'il n'y a pas vraiment de différence. Super Mario Bros, c'est « On ne joue plus », « Ain't no game », »,« This ain't no game ». Et vous, qui vous joue, ça c'est gamer. Certains vivent pour jouer, d'autres jouent pour survivre. Enfin voilà, il y a quand même, ils surfent toujours sur cette limite très 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 délicate,
évidemment,
très fine entre le jeu et la réalité.
Parce que ce sont des films de cinéma. Vous venez de citer de toute une série de phrases d'accroche qu'on c'est repère ça. Sur les affiches de ces films quand ils sont exploités en salle de cinéma. Et toutes ces phrases d'accroche sont extrêmement anxiogènes. Mais évidemment, pour le spectacle cinématographique, c'est formidable. Il faut créer ce malaise, cette curiosité, ce danger qui semble déjà planer sur le
donc
film.
Donc c'est propre au cinéma, c'est pas le jeu vidéo.
Dans les jeux vidéo au cinéma, là-dessus. Je montrais qu'historiquement, il fallait attendre la deuxième moitié des années 2000 pour trouver des discours qui ne soient pas stigmatisants ni sur les mondes de jeu, ni sur les joueurs, dans les films de cinéma qui s'intéressent à cette pratique-là. Ces films de cinéma apparaissent au début des années 80, à un moment où Hollywood, d'une part, constate que les jeunes garçons, les jeunes hommes, adolescents, jeunes adultes, font partie de leur plus important public qui sera encore en salle de cinéma. Et d'autre part, que ce public a pris le goût des jeux vidéo par les jeux vidéo d'arcade et évidemment par l'arrivée des jeux vidéo domestiques sur console et micro-informatique. Et donc, on va aller leur parler de jeux vidéo parce qu'on sait que probablement ça va les attirer vers la salle de cinéma. Sauf que l'ensemble de ces films continue d'avoir un discours extrêmement réactionnaire vis-à-vis des jeux et continue d'être très souvent, même s'ils ont valorisé le jeu au cours de du récit filmique, en arrive à une conclusion qui est en général que tout ça est un peu dangereux, ma bonne dame, et qu'il faudrait éviter de laisser trop ses enfants, voire même parfois leurs parents qui ont été contaminés au cours du film, face à ces jeux vidéo.
Il y a une dimension moralisatrice.
Il y a une dimension moralisatrice extrêmement forte d'un média, d'une certaine façon, et là on peut le lire aussi dans un rapport médiatique et industriel entre les deux médias, bah, le cinéma, qui peut-être s'inquiète dans les années 80, à un moment très fort de l'industrie du jeu vidéo, de la concurrence que représente le jeu vidéo par rapport au divertissement cinématographique. D'une part, parce que ça va peut-être vider les salles au profit des salons. Et puis qu'en plus, il se trouve que depuis les années 70, la télédiffusion de films fait partie aussi des recettes qu'engrangent les industries du cinéma à Hollywood. Et que si l'écran de télévision est utilisé par un jeu vidéo domestique, il ne peut pas être utilisé pour regarder un film de cinéma.
Il y a quand même des échanges, des transferts vraiment intéressants entre cinéma et jeux vidéo. Je pense par exemple à ce phénomène qu'on appelle « die and retry » dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que, pour le dire clairement, n'importe quel jeu vidéo, la plupart en tout cas, nous avons un personnage qui, s'il meurt, peut s'en remettre. Et on a une deuxième vie, une troisième vie d'ailleurs. Bien souvent sur l'écran figure le nombre de vies qu'il nous reste. C'est soit des étoiles qui sont allumées ou éteintes, soit une espèce de réservoir, comme un réservoir de fuel qui est plus ou moins rempli. Eh bien, il est intéressant de voir comment on peut transposer ce phénomène-là. Dans la vie, c'est un peu difficile, mais au moins, dans la fiction, et pour prendre un cas particulier, au cinéma, écoutez un extrait du Jour sans fin.
Pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui.
Ça caille tous les jours par ici. On n'est pas à Miami.
Faites gaffe, vous repassez la bande d'hier.
Problème de circulation ce soir avec ce blizzard.
Blizzard, vous avez dit blizzard, comme c'est étrange. Eh bien, voici les prévisions. La météo nationale prévoit un super blizzard. Ça va décoiffer.
Oui, mais il y a une autre raison pour laquelle cette journée est si particulièrement passionnante.
Et particulièrement froide.
Particulièrement froide, oui, mais une question majeure est sur toutes les lèvres.
Les lèvres gercées.
Les lèvres gercées, oui.
Quoi, Nonet ?
Croyez-vous que Phil verra son ombre à son réveil ?
Le fil de Puxetoni.
Oui, bûcheron bûcheur, c'est le jour de la marmotte. Debout les morts, il y en a marre des meutes.
Mais c'est dingue.
Bonjour, nous allons voir la marmotte.
Oui.
À quand le printemps, à votre avis?
On n'a pas déjà fait ça hier?
Excusez-moi, je ne comprends pas, là.
Arrête, Porky, je te fous pas de moi. Dis-moi quelle journée.
Le 2 février, voyons. Le jour de la marmotte.
Ouais. Navré, c'est drôle, je croyais que c'était hier.
Alors, ce qui est vécu comme une chance très précieuse dans les jeux vidéo, à savoir le fait de pouvoir revoir, rejouer et revivre la même scène à l'infini en droit, est vécu comme un cauchemar par ce personnage donc du Jour sans fin, le film d'Harold Ramis qui date de 93, interprété par Bill Murray. Il s'appelle Phil Connors. Il se réveille un jour et il se rend compte qu'il revit exactement la journée de la veille, et ceci encore et encore et encore. Ça s'appelle le jour de la marmotte, puisque ça arrive en 2 février, qui est le jour de la marmotte, à l'endroit où il se trouve. On est ici, alors vous allez me dire, c'est encore une tarte à la crème comme Existence, ou pas?
Ah non, moins.
Bon, heureusement. Merci de votre indulgence. Parce que là, pour le coup, ce qui est génial, c'est de voir comment, quand on transpose un mode de récit propre aux jeux vidéo au cinéma, on passe d'une forme de dimension ludique à ce qui s'approche quand même d'une tragédie. C'est extrêmement difficile à vivre.
Probablement parce que Phil Connors n'a pas choisi.
Encore une fois, voilà, ça lui est imposé.
La question de la liberté et du choix de jouer, hein, c'est ça. On en revient à ça d'une certaine façon. Non, excellent ressort comique de la répétition. De toute façon, depuis le burlesque, on sait que répéter des actions, en général, arrive à provoquer le rire. Là, la situation, évidemment, est cauchemardesque. Et on rit du cauchemar que traverse Phil Connors. Même si parfois, évidemment, on a peur avec le drame à certains moments du récit. La séquence la plus intéressante, je pense, c'est le moment où Phil essaye de séduire sa productrice télévisée, puis il est présentateur de météo, elle l'accompagne, ils sont coincés par la neige, ce qui fait que la journée se rejoue et qu'il n'y a pas de possibilité de sortir du terrain de jeu, d'une certaine façon. Et ce qui va être intéressant, c'est le montage qui est proposé par Harold Ramis à ce moment-là, c'est-à-dire de chaque fois voir jusqu'à quel point d'échanges et de séduction est arrivé Phil, jusqu'à comprendre qu'il fait un faux pas et qu'à ce moment-là, il perd en attrait aux yeux de la jeune productrice. Et on voit au niveau du montage le déroulement d'une séquence jusqu'à l'échec et la reprise juste avant l'échec, pour voir quelle stratégie, d'une certaine façon, il a utilisé pour avancer dans sa relation de séduction avec cette productrice. Donc, le réalisateur ici fonctionne vraiment à la manière de ces points de sauvegarde d'une certaine façon, c'est qui ça. Vont caractériser une partie des jeux vidéo à partir du moment où techniquement on pourra enregistrer le point de progression du joueur. Et puis un terme aujourd'hui que j'ai entendu à votre antenne, le respawn, c'est-à-dire la capacité de l'avatar du joueur à réapparaître à un lieu et à un moment du jeu sans avoir à refaire l'ensemble du parcours qui l'a mené jusque-là. Donc c'est traité sous un mode extrêmement réussi et comique, un jour sans fin dont, paraît-il, il ne reste même plus une copie 35 mm en France, et tu es probablement une des meilleures comédies américaines des années 90. Je dis ça parce que parfois on essaye de le projeter, pour pas projeter Existence, et on n'arrive pas à avoir de copie du
Plus
du
récemment,
film.
Il y a The Edge of Tomorrow, un film.
Voilà, et on a vu dans les années 2000 toute une série de films qui, alors qu'on se dit, mais bon sang de bois, la répétition, du point de vue d'un récit filmique, c'est pas forcément la meilleure manière de séduire le spectateur, de l'entraîner dans un récit, de l'accrocher, puisqu'il va se lasser au bout d'un moment. Eh bien, Code Source, d'une part, de Duncan Jones, Edge of Tomorrow, plus récemment, sont deux films dont le premier est plutôt un film indépendant, le second est une sorte de blockbuster. Ces deux films ont tenté de construire leur récit sous la forme d'une répétition, avec des personnages qui font face, évidemment, à des difficultés, et de réussir à passer outre ces difficultés pour avancer dans leur histoire et faire aboutir le récit, jusqu'à un moment dans Edge of Tomorrow où la capacité à revivre chaque journée s'arrête. Il y a eu un événement qui d'un coup arrête ça, et évidemment là c'est la dernière vie. Et toute la tension dramatique est complètement concentrée sur est-ce qu'ils vont réussir à arriver jusqu'au bout. Il y a une suite, une sequel, hein, le film a suffisamment marché pour qu'une suite soit annoncée. Moi, je suis extrêmement curieux de voir s'ils vont réussir le coup de force, de reprendre la même structure narrative et de nous refaire le coup une deuxième fois.
Il faut dire que là, on parle de jeux vidéo et de cinéma, mais ce rêve ou ce cauchemar de rejouer sa même vie à l'infini précède largement l'industrie de jeux vidéo et l'industrie du cinéma, et on le trouve dans des textes de littérature ou de philosophie. Pensez à la pensée de l'éternel retour pour Nietzsche, où là, pour le coup, c'est pas imposé, c'est justement un exercice de pensée que propose Nietzsche, qui est de dire, mais imagine que tu doives revivre cette vie sans cesse, à l'infini, encore et encore, serais-tu capable de l'embrasser telle qu'elle est, cette espèce d'acquiescement dont on devrait être capable pour pouvoir, disons, développer une attitude face à la vie qui soit à peu près satisfaisante, qui ne soit pas complètement tragique. Dans les deux cas, me semble-t-il, il y a un point commun qui est quand même d'essayer d'améliorer, soit de s'améliorer soi-même, soit d'améliorer notre rapport au monde. Mais il y a ce qu'on peut appeler une sorte de perfectionnisme moral. Il faut quand même tendre vers quelque chose d'un peu mieux que le degré qu'il y avait avant. Et le jeu vidéo montre ça à merveille. On peut vraiment quantifier les efforts et les progrès faits.
En tout cas, c'est sûr que la modalité du Die and Retry, elle montre qu'il y a une forme de persévérance chez les joueurs. Et que probablement dans des jeux vidéo qui ont largement été attaqués dans les années 90, les observateurs se sont pas suffisamment rendu compte que de jeunes joueurs n'abandonnaient pas, baissaient pas les bras pour essayer de passer le premier niveau de Super Mario Bros, puis le second, puis le troisième, puis passer un monde, puis découvrir certains secrets. On est dans un rapport de répétition. La répétition, c'est une modalité qui nous plaît en général, parce qu'on c'est des choses qu'on connaît et qu'on aime retrouver ce qu'on connaît. Le jeu vidéo on pense vraiment à des jeux qui peuvent être des shooters, des shoot 'em up ou des jeux de plateforme, donc des genres qui sont évidemment parfois faits sur l'apprentissage un petit peu par cœur du niveau de jeu et du level design. C'est le plaisir du joueur qui arrive après moult efforts et moult tentatives à passer la fin du niveau, mais c'est aussi ce qu'on retrouve aujourd'hui dans des pratiques comme le speedrun ou comme des joueurs qui vont avoir une maîtrise absolue d'un jeu. C'est-à-dire, après des années à s'être entraîné à un jeu, en maîtriser sur une session de jeu, qui peut être une session de jeu de 50 minutes, absolument tous les ressorts pour produire une sorte d'idéal qui serait la partie parfaite. Et donc, à ce moment-là, ça devient toute une série de vidéos qu'on peut trouver en ligne, ou d'événements d'ailleurs, où ces joueurs viennent tenter de reproduire en direct le type de performance qu'ils ont su faire. Mais voilà, c'est vrai que c'est un rapport un peu différent. On l'a dit, le rapport à la mort dans les jeux vidéo, à la mort de l'avatar, fonctionne pas du tout comme dans d'autres formes de récits, comme le récit littéraire ou le récit filmique, à l'exception évidemment de genres qui vont permettre à un personnage mort de revenir dans le jeu et dans le récit. Mais si on est du côté du drame ou si on est du côté de la reconstitution historique, forcément, si un personnage meurt, c'est définitif. Le jeu vidéo, d'une certaine façon, nous invite à prendre en compte cette mort comme la fin d'un monde possible du jeu vidéo qu'on a exprimé. Moi, c'est une idée que j'ai proposée dans mes premiers travaux, c'est-à-dire que chaque joueur qui joue à Super Mario produit chaque fois une partie différente. Chaque joueur dans le monde qui joue à Super Mario produit des parties différentes. Et donc, le monde de Super Mario a été exprimé depuis 1985, probablement des milliards de fois, par des joueurs différents qui ont produit un état de la fiction vidéoludique Super Mario qui était propre à leur partie. Et ça, c'est vrai que ça nous invite peut-être à penser quelque chose qui nous renvoie à la question des mondes possibles. Est-ce que le jeu vidéo n'est pas un objet qui interroge aussi ses capacités à produire des états possible de la fiction, simplement par la manipulation, par le fait que intégré au récit et au mécanisme de narration, il y a ce joueur qui interagit, qui fait des choix à différents moments et qui produit, et vraiment au sens produire, pas seulement par un effet interprétatif, qui le produit par un effet de création d'images qui s'affichent sur un écran. Elles peuvent être enregistrées, en général elles ne le sont pas, mais elles ont existé à un moment, elles ont fait un état possible de ces mondes de fiction.
Et là on est vraiment au cœur de ce qui fait la spécificité du jeu vidéo. On parle des modes de récit propre au cinéma, la littérature ou autre, ce que vous venez d'écrire, seul le jeu vidéo peut le proposer. Peut-être les jeux de rôle en plateau. Le jeu en général.
Le jeu est caractérisé par une forme d'incertitude. On ne sait pas comment il termine. Si on sait comment termine un jeu, c'est Kaiwa qui nous le dit, c'est plus un jeu. C'est un caractère d'incertitude, d'une certaine façon, qui caractérise la pratique. Et du côté du jeu vidéo, qui va permettre cette possibilité de déployer ces états possibles des mondes de jeux vidéo.
Au chemin de la philosophie non plus, on ne sait jamais comment ça va terminer. Ça dépend de ce que dit l'invité. Alors bon, pour être fidèle à cette émission, Alexis Blanchet, voici la musique de Red Dead Redemption. C'est Johnny Cash qui chante « God's gonna cut you down ».
You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweep. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down.
Merci beaucoup Alexis Blanchet d'être venu nous parler de jeux vidéo aujourd'hui.
Merci à vous.
Je renvoie les auditeurs aux ouvrages Les jeux vidéo au cinéma qu'on trouve chez Armand Collin, et puis un ouvrage collectif que vous avez dirigé aussi, Jeux vidéo au cinéma dans une perspective théorique. On trouvera les références de ces livres en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie.
Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light.
Puis la radio maintenant, avec les téléchargements et les podcasts, c'est comme un jeu vidéo, on peut les réécouter à l'infini. Vous pouvez pas corriger, mais vous pouvez donner votre avis en vous rendant sur le site des Chemins de la Philosophie ou sur nos comptes Facebook ou Twitter. Sur France Culture, il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Tous les jours pour votre journal de la philo, vous nous faites un point sur l'actualité philosophique. Alors quel événement a retenu votre attention aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, à l'occasion d'une nouvelle parution en français d'un de ses livres, La Société de Transparence aux éditions PUF, eh bien j'ai voulu évoquer une figure encore trop peu connue en France et pourtant incontournable, c'est le philosophe Byung-Chul Han.
Wir leben heute nicht mehr in einer Disziplinargesellschaft, die vom Verbot oder vom Befehlen beherrscht ist, sondern in einer Leistungsgesellschaft, die angeblich frei ist, die vom Können, Yeshuikern, bestimmt ist. Aber dieses Können erzeugt nur am Anfang ein Gefühl von Freiheit.
Nous vivons dans une société de discipline dominée par les interdits et les règles, marquée par la devise du « yes, we can », ce qui crée au début une sensation de liberté, mais se révèle en fait plus aliénant que le « tu dois ». Voilà, c'était la voix de Byung-Chul Han. Sa voix, c'est d'abord celle d'un philosophe né en Corée du Sud, venu en Allemagne en 1980 pour découvrir les grands systèmes de pensée, alors qu'il avait quand même dit à ses parents qu'il était parti étudier la métallurgie. Et bien plus de 30 ans plus tard, désormais professeur à Berlin, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, traduit dans plus de 10 langues, Byung-Chul Han, c'est aussi la voix de la critique. Il détecte tout simplement les dessous de ce que l'on ne cesse d'entendre partout, de tout ce qui est proclamé et prôné comme la transparence.
J'ai appris hier, avec stupéfaction et colère, les aveux de Jérôme Cahuzac devant ses juges. Il a trompé les plus hautes autorités du pays, le chef de l'État.
La haute autorité pour la transparence de la vie publique. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'institution qui, en France, est chargée de veiller à l'exemplarité des responsables publics. Créée en décembre 2013, c'est une autorité administrative indépendante. Cela signifie qu'elle est financée par le budget de l'État, mais qu'elle ne dépend d'aucun ministre et qu'elle ne reçoit aucune instruction du gouvernement ou du Parlement.
Voilà un exemple de transparence. Dans son dernier ouvrage paru en français, La Société de Transparence, donc, on retrouve un des grands axes de la pensée de Byung-Chul Han, le travail d'un paradoxe de notre époque, assez également partagé, qui consiste à tout montrer pour ne plus rien révéler. De la tendance à l'uniformisation, au numérique qui nous pousse au nivellement, sans oublier la fatigue qui n'aide pas, Byung-Chul Han souligne ces signes qui nous mettent à nu. Mais des signes qui n'en sont plus, qui sont trop transparents et n'ont plus de sens. Voilà, c'est sa critique à Byung-Chul Han. Que dire de ces signes qui disent déjà tout ou qui sont si lisibles qu'ils ne disent plus rien du tout ? Que dire quand il n'y a plus de place pour l'équivoque, pour l'ambiguïté, pour l'abîme comme le veut Baudelaire ?
Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l'abîme ? Ô beauté ! Ton regard infernal et divin verse confusément le bienfait et le crime, et l'on peut pour cela te comparer au vin. Sors-tu du gouffre noir ou descends-tu des astres ? Le destin charmé suit tes jupons comme un chien. Tu sèmes au hasard la joie et les désastres, et tu gouvernes tout et ne réponds de rien.
Parce qu'il y a chez Byung-Chul Han une passion de l'horreur à la manière de Baudelaire, comme on vient de l'entendre, et qu'il cite assez souvent, parce qu'il y a aussi un petit peu de Roland Barthes et de sa mythologie, il faut le dire, ou du Giorgio Agamben et de sa biopolitique, ou encore de Jean Baudrillard et de l'hyper-réalité, ou encore une critique assez commune de notre temps, on pourrait se demander, retourner la question à Byung-Chul Han, qu'est-ce qui le distingue lui ? Et on pourrait aussi y répondre en disant, eh bien de l'épaisseur justement, tout ce qu'il revendique contre le lisse, tout ce que l'on retrouve dans ses interprétations qu'il retravaille au fur et à mesure de ses livres, mais aussi dans les corps qu'il décrit, qui ne se dévoilent pas et ne s'épilent pas non plus. Oui, Byung-Chul Han est contre l'épilation, tout ce qui empêche en fait de le réduire à un autre, de le lisser à notre tour.
C'est bien le premier point commun que je trouve entre Jérôme Cahuzac et l'épilation. Merci Géraldine.
Mais c'est grâce à Byung-Chul Han.
Et c'est grâce à vous, le titre du livre de Byung-Chul Han.
La Société de Transparence, et puis on mettra en ligne tous les autres titres de Byung-Chul Han parus en français, et celui-ci est paru au PUF.
Et en ligne, on pourra également réécouter votre chronique. Merci à Pauline Vermeren qui a préparé cette émission, ainsi que David Pargamin, Claire Perriman-Holt, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Nicolas Slimani qui était à la prise de son aujourd'hui, avec derrière la vitre Valentine et Pierre. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi, je recevrai le philosophe italien Maurizio Ferraris. professeur de philosophie à l'université de Turin, qui fait paraître « L'imbécilité est une chose sérieuse » aux éditions PUF, qui est aussi l'auteur d'autres ouvrages. Il viendra demain vous faire part d'une masterclass sur l'ensemble de son œuvre. D'ici là, rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter. Rendez-vous aussi sur le site des Chemins de la Philosophie pour réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. À demain donc, 10h, et d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.